Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et il y a peu, s'est tenu à l'Academy College de Natania un colloque consacré aux auteurs-compositeurs juifs de langue française. Et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer Franklin Roski, qui est présent ce soir dans notre studio, qui a présenté une communication absolument passionnante sur la musique qui guérit. Alors Franklin Roski, vous avez un pédigré, enfin on va essayer d'énumérer tous vos titres sans les oublier. Vous êtes donc directeur des études de l'Institut Elie Wiesel à Paris, où vous faites un travail formidable. Vous êtes directeur de recherche doctorale à l'Université de Paris Diderot. Vous avez écrit, vous êtes plutôt co-directeur d'un dictionnaire de psychologie et psychopathologie des religions avec Stéphane Gumper, pardon, et bien d'autres choses encore dont vous nous parlerez au cours de cette émission. Donc, votre communication a porté autour du pouvoir presque paranormal de la musique. Alors, la religion juive est par définition plutôt prosaïque. Son centre d'intérêt n'est pas tant ce qui se passe dans l'au-delà que dans la pratique religieuse ici-bas. Mais il n'en demeure pas moins que certains écrits bibliques et certains courants mystiques se sont intéressés, voire adressés, à ce monde de l'au-delà et à ses manifestations. Et pour atteindre ce monde de l'au-delà, le prophète, le mystique, recourt souvent à la musique. Et cette musique dont vous nous dites, et vous allez nous l'expliquer, Franklin Roski, qu'elle possède entre autres le don, le pouvoir de guérir. Alors Franklin Roski, d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Et je suis toujours aussi autant ravi de vous accueillir. On avait déjà fait une émission sur musique et mystique juive. Alors celle-ci va s'inscrire un peu dans la prolongation, mais sur spécifiquement donc la possibilité, enfin le don de guérison de cette musique. Donc lorsqu'on parle de cette musique qui guérit, évidemment, une des premières références que vous avez citées dans votre conférence, et bien évidemment celle du roi David et de son kinnor, en fait un terme qu'on traduit habituellement par harpe mais qui désigne plus probablement une lyre. Alors est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs et auditrices cet épisode biblique?
Oui, cet épisode biblique je l'avais présenté dans un article qui s'appelle Musique et transe, que j'écris en collaboration avec un éminent musicologue, Gilbert Rouget, qui est paru d'ailleurs dans le dictionnaire de psychologie et psychopathologie des religions. L'idée était la suivante. À un moment donné, le roi Shaoul en hébreu, est victime d'une sorte de perturbation mentale. Il est dans la jalousie, il est dans la haine, il est dans une oscillation permanente entre des sentiments opposés. Et les courtisans suggèrent au roi Shaoul de faire venir un jeune musicien qui pourrait donc avoir, à travers sa musique, en effet, des consolations, d'apaisement des souffrances psychiques du roi. C'est ainsi que le jeune David est présenté à la cour, d'abord comme harpiste, comme musicien, et par la suite seulement, il deviendra le célèbre guerrier qui a vaincu Goliath. Et à un moment donné, cet effet de soulagement a lieu, et le roi se trouve dans un état de calme, de tranquillité, de relaxation comme résultat de cette musique. Et par la suite, le conflit qui va naître entre le roi Shaoul d'une part et le jeune David d'autre part va éclater, parce que David devient l'objet d'admiration de la foule et Shaoul le vit très mal. Et c'est alors donc que, au lieu de continuer à écouter en silence les sons de la harpe, il va prendre une lance et la jeter sur David qui va échapper miraculeusement à la mort. C'est dire que les thérapies, la musicothérapie, comme toutes les autres thérapies, fonctionnent, mais ne fonctionnent pas toujours.
Oui, on considère souvent effectivement le roi David comme un peu l'ancêtre, le père de tous les psychothérapeutes, hein, puisque c'est vraiment la première mention d'une musique qui guérit dans un écrit biblique. Et comme vous le dites très bien, ça guérit, mais ça ne soigne pas forcément. C'est-à-dire que la durée de l'effet de la musique est parfois temporaire. Et je vous propose de faire tout de suite une première pause musicale. Vous savez, c'est un peu le principe de cette émission. On discute bien sûr, mais on écoute un peu la musique qui illustre nos propos. Donc une première pause musicale avec une chanson justement sur le roi David, dont l'interprétation va peut-être paraître un petit peu désuète, mais qui va rappeler des bons souvenirs à tous ceux qui sont passés par les éclaireurs et éclaireuses israélites de France, puisqu'il s'agit d'un disque qui a été publié dans les années 1960, un 33 tours, qui s'intitulait « Histoire biblique en chanson », et c'est justement la chanson du roi David.
Sur un tabouret de bois, David joue de la harpe. Sur un tabouret de bois, David joue pour son roi. Sur un tabouret de roi, David enseigne la loi. Sur un tabouret de roi, David chante sa foi. Satan m'a tenté trois fois, et j'ai péché envers toi. Ah mon Dieu, entends ma voix.
Le roi David, un enregistrement ancien composé par Roland Blum, interprété ici par l'ensemble vocal des Scouts de France, accompagné de Paul Dumas, une des raretés que nous possédons à l'Institut européen des musiques juives. Franklin Roski, donc outre l'épisode du roi David, un autre exemple de transe biblique que vous avez cité dans votre communication est celui du prophète Élisée. Pourriez-vous nous rappeler un petit peu l'histoire de Élisée ?
Oui, Élisée vit à une époque qui est déjà celle du schisme. Il y a deux royaumes, le royaume de Juda, le royaume d'Israël, et ils sont souvent en état de guerre, fratricide. Mais là, les deux royaumes sont unis et ils sont des ennemis. Les royaumes voisins mènent la guerre contre Juda et contre Israël, et les deux rois s'adressent à Élisha, Élisée, un disciple du prophète Élie, du prophète Eliaou, pour demander ce que deviendra finalement de ces deux royaumes à l'issue de cette guerre. Donc nous sommes dans un tout autre registre. Il ne s'agit plus de guérir, ni de consoler, ni d'édifier. Il s'agit de prédire, il s'agit de prévoir l'avenir. Et pour cela, on a l'impression que qu'un prophète, un avi, peut indiquer les voies du futur. Et, or, Élisha, en état d'éveil, en état de conscience ordinaire, n'est pas en mesure de prédire quoi que ce soit. Tout se passe comme si, dans cet état de conscience ordinaire, le futur était pour lui totalement ignoré. Alors il dit « Amenez-moi un musicien ». Cette phrase est très significative, a été soulignée par Gilbert Rouget comme le processus d'entrée dans l'état prophétique, dans un état de conscience modifié de type prophétique et mystique, grâce à un dispositif inducteur qui est le dispositif de la musique instrumentale. Alors on amène à un musicien qui va jouer devant Élisha, et Élisha va entrer dans un état de transe prophétique. Et dans cet état, il va prédire la victoire finale des Judas et d'Israël contre ses ennemis. Alors, c'est un cas exceptionnel dans l'histoire de la musique, parce que la musique apparaît ici comme un facteur mobilisateur des énergies prédictives du sujet.
Alors, autrement dit, dans la Bible, à part l'épisode de David, donc on en a parlé, celui dont vous venez de parler, d'Elisha, d'Élisée, pour lequel la musique intervient plus comme un facteur finalement pour accéder à une conscience modifiée, est-ce qu'il y a d'autres épisodes à part ces deux-là ou c'est relativement rare ?
Et c'est relativement rare, mais il existe donc des cas dans lesquels la musique apparaît comme mobilisateur, non pas d'un état modifié des consciences, mais comme mobilisateur d'un enthousiasme religieux collectif. On les voit dans la Shira de Moïse, le cantique de Moïse, et dans le cantique de Myriam, dans le cantique de Déborah, à plusieurs reprises, le cantique collectif apparaît comme une mobilisation des énergies spirituelles collectives. Le sujet va entrer dans le groupe et dans le groupe va exprimer sa sensibilité spirituelle.
Oui, donc finalement, d'après ce que vous dites, plus qu'une guérison physique, la musique entraîne surtout en fait une modification au niveau psychologique qui est susceptible de soulager soit la mélancolie ou la dépression du roi Saül, soit d'entraîner un état de conscience modifié. Donc ça joue presque plus au niveau de l'âme que du corps, non ?
Au niveau de l'âme et au niveau du corps, les deux. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de relaxation psychosomatique ou au contraire de mobilisation des énergies chez les sujets léthargiques, chez les sujets passifs. Et d'autre part, il y a aussi donc un changement d'état d'esprit qui est induit par la musique. De façon telle que, il y a thérapie, il y a recherche de guérison et il y a quelque chose d'autre. C'est ce que disait le philosophe Romano Guardini dans son livre sur la mélancolie récemment. La mélancolie, c'est une maladie, mais c'est plus qu'une maladie. C'est quelque chose d'autre. Et dans le cas du roi Shaul, dans le cas des différents personnages bibliques comme Job, on voit qu'il ne s'agit pas simplement d'une dépression passagère, d'un état d'abattement ou de tristesse. Il s'agit d'une sorte de désespoir, de vision pessimiste du monde à laquelle les prophètes et les maîtres et les sages cherchent à opposer la force rédemptrice, libératrice du son.
Alors, ce qui est fou, c'est en fait cette notion déjà très ancienne, puisque c'était dans la Bible, est toujours actuelle et toujours plus aujourd'hui. On a parlé de la musicothérapie, qui est une manière de soulager bien des personnes souffrant de malaise psychologique, mais également, finalement, la musique, le chant. On dit toujours que faire partie d'une chorale, chanter, ça permet de travailler sur soi, ça permet de travailler le souffle, et ça libère de tensions internes. Donc, c'est toujours d'actualité aujourd'hui, et on voit là à quel point finalement l'abîme ne fait qu'énoncer une vérité qui nous semble évidemment évidente.
Oui, les effets sont tout à fait différents. Dans la musique instrumentale, le sujet est auditeur, il est dans une position passive. Il écoute et il est mu, transformé par le son de l'instrument. Alors que dans les chants, il est participant. Il y a un effet. Et c'était donc Jacob Lévi-Moreno, le père du psychodrame, qui avait signalé ce rôle fondamental des chœurs, c'est-à-dire la musique chorale, le chant en commun, le chant chanté ensemble, a un effet de libération émotionnelle qui remonte à l'aube de l'histoire humaine.
Alors ça, on va en parler tout de suite après notre seconde pause musicale. On parlera également d'un courant très important qui est le mouvement hassidique qui utilise justement cette expression chantée collective qui libère cette énergie dont vous parlez et, dans une cohésion totale. Et donc on va faire une deuxième pause musicale en écoutant le psaume 13, psaume attribué au roi David, tout au moins en ce qui concerne le texte, car la musique qui accompagne ce psaume, musique que vous allez entendre dès maintenant, est une reconstruction de Suzanne Eich-Ventura, une musicienne qui, dans les années 1970, s'était mise en tête de retrouver la musique de la Bible en décryptant notamment le système des accents bibliques, les fameux ta'amim, ces petits signes qui figurent sous ou sur les syllabes des mots et qui sont en fait un système mnémotechnique permettant de réguler la lecture de la Torah. Quand on sait que ce système a été élaboré entre le 6e et le 9e siècle de l'ère chrétienne, soit plus de 16 à 19 siècles après le roi David, on peut penser bien évidemment que la musique du roi David, qui n'a jamais été notée en son temps, a largement eu le temps de se perdre et d'évoluer durant ces presque 2000 ans. Donc la musique du psaume 13 que l'on va entendre est très belle, mais certainement très éloignée de ce qu'était vraiment la musique biblique à l'époque de David. Mais ne gâchons pas notre plaisir, écoutons donc ce psaume, l'Amnatzer Mizmor le David, Ad Anna. L'Amenatzer Mizmor le David, Ad Anna, le psaume 13, extrait donc du CD La musique de la Bible révélée, selon la transcription de Suzanne Eichventura. Il s'agissait du volume 3. Frank Larowski, donc, vous nous dites en fait que finalement la musique a été utilisée dans bien d'autres civilisations parce qu'elle agit sur différents plans. Alors vous avez cité des plans un peu contradictoires. Vous avez dit finalement que ça éveille à la prophétie, ça revitalise, mais en même temps ça endort, ça a des effets qui sont pour le moins antithétiques. Alors comment est-ce qu'il y a une explication à ça ?
Oui, et donc il s'agit donc évidemment comme on l'a remarqué dans la pharmacopée, la même substance peut provoquer les effets les plus opposés. La musique peut éveiller les énergies, peut éveiller la motricité, mais provoquer aussi un endormissement léthargique, peut provoquer des crises de convulsions, mais aussi la passivité. Et nous avons vu qu'il peut provoquer l'exaltation des dons prophétiques, même ce qu'on peut appeler les facultés médiumniques de prédiction, mais d'autre part peut nous plonger dans l'amnésie, dans l'engourdissement, dans l'oubli de notre vie. Et la musique peut être à la fois facteur de guérison, guérison surprenante des maladies, mais peut induire aussi des symptômes morbides. Donc c'est important de signaler donc ces rôles de la musique qui avait été souligné par Gilbert Rougier en parlant de la personnalité du roi Shaoul, en s'interrogeant sur quels sont les facteurs qui ont pu agir dans la harpe de David pour provoquer les effets sur le roi Shaoul.
Donc en fait, c'est comme un médicament avec des effets secondaires. Il ne faut pas en abuser, d'après ce que vous nous dites. Mais il y a un véritable pouvoir de la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, quand vous citez Gilbert Rougier, c'est un ethnomusicologue évidemment très connu qui a travaillé, un des pionniers d'ailleurs de l'ethnomusicologie, et il a vu, et il le cite dans plusieurs articles, ce pouvoir un petit peu quasi magique de la musique. C'est dans bien d'autres civilisations que la seule civilisation hébraïque en fait. Moi-même en tant qu'ethnomusicologue, quand je pense à la musique, comme source de guérison, je pense à des tas d'autres musiques, par exemple la musique des soufis. Chez les soufis, on a une cérémonie, le dhikr, qui signifie évocation en arabe, où le nom d'Allah, en fait, le nom de Dieu, donc, est répété inlassablement jusqu'à induire une certaine transe, en fait, jusqu'à induire une possession totale du corps et de l'esprit. On retrouve d'ailleurs sous une autre forme chez les derviches tourneurs également, là avec l'association des mouvements du corps dont on va parler, puisque ces mouvements du corps on va les retrouver chez les chassidim, mais on trouve aussi une atteinte à cette extase, à cette transe. Et puis également les gnawa, mais ça ce sont quelques exemples. Alors les gnawa, c'est une confrérie religieuse populaire, mais qui vivent vers le Sahara. On pense que le terme lui-même viendrait de un mélange de Guinée. Et donc, il s'adonne, pareil, à la pratique de la transe et à des fins thérapeutiques. Alors, il m'a semblé intéressant, dans le cadre de cette émission sur les musiques juives, de vous apporter d'autres musiques que les musiques liturgiques juives. Justement, on va entendre, parce qu'il y a des points communs que j'aimerais bien développer. Donc, je vous propose d'écouter deux exemples qui vont s'enchaîner, qui sont donc extraits de la musique des soufis, le fameux dhikr. Donc on va les entendre. Le premier exemple s'appelle Wad Wifa Wa Shadouli, c'est extrait donc d'un CD sur le chant soufi des Comores, et le deuxième Talidi.
Wahidullah
Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم في جميع الشؤون في الظهور والبطون على من انشقت الأسرار الكاملة في ذاته العلية ظهورا وانفلقت الأنوار المنطوية في سماء صفاته سنية بدورا وفيه ارتقت الحقائق منه إليه وتنزلت قلوب آدم في عليه فعجز كل من الخلائق فهو ما أوذي من السر فيه ولو تضالت الفهوم وكل عزيز يكفي فذلك السر الموصول لم يدركه منا سابق في وجودي ولا يبلغ لائق على سوابق شهودي فاعظم به من نبي رياض الملك والنبوذ زائر جمالي زائر مولكه وياض معالم الجبروت.
La ilaha illa Allah.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Allah, 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 Allah.
Allah, 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 Allah,
extrait du CD Ali Amani, chant soufi des Comores, de, je ne sais pas si on peut dire prière, en tout cas, extrait de morceaux, extrait d'une cérémonie justement organisée dans cette confrérie soufie et qui nous amène à la transe. Alors ce qui est très amusant, Franklin Rossi, c'est que je vous observais pendant les morceaux et vous étiez en train de vous balancer, mais alors exactement comme on se balance pendant qu'on fait les prières juives. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine assez parce que ce balancement, en fait, on le fait intuitivement, tout le monde le fait, et ça suit, en fait, on ne sait pas ce que ça suit exactement. Ce n'est pas la pulsation, ça ne suit pas une pulsation comme on chante, c'est un balancement, c'est là vraiment l'entraînement du chant, du chant, du souffle, je ne sais pas quoi, sur le corps. C'est assez incroyable que, vous voyez, ce n'est pas du tout une tradition juive, mais voilà, ce balancement juif, il est là.
C'est une tradition dans certains milieux juifs qui est contestée et condamnée par d'autres milieux juifs. Comme un peu partout dans le monde, le problème de la transe musicale, de l'entrée dans un état second par la musique, va diviser profondément la société. Les morceaux musicaux que vous avez donc signalés ont été interdits en Turquie au lendemain de la Première Guerre mondiale par Kemal Atatürk, parce que toutes les confréries des derviches et les confréries soufis ont été interdites en considérant que c'est un appel à l'émotion, c'est irrationnel, ça plonge la population dans un état second et c'est contraire au principe de l'intelligence occidentale que Atatürk voulait donc instaurer. Dans toutes les sociétés, il y a à la fois une tendance vers l'état second, vers la déconnexion par rapport aux réalités du monde et vers l'entrée dans un monde différent. Et il y a aussi une méfiance profonde à l'égard de ces états. Et dans le monde juif aussi, autant les chassidim invoquaient les pouvoirs de la musique instrumentale, du chant collectif, de la danse, comme un moyen d'accès à une spiritualité supérieure, autant dans le milieu que nous appelons le maskilim, le milieu des philosophes éclairés, des éducateurs éclairés, et on se méfiait de ces états seconds qui plongeaient la population juive dans une sorte de déconnexion par rapport au monde.
Mais sans parler de déconnexion, je reviens un petit peu à ma question. Je trouve que quand on écoute surtout le premier morceau, en fait, on a l'impression de se retrouver presque dans une synagogue où les gens sont en train de prier. Et il y a une espèce de, comment dirais-je, d'usage des mots ou des phrases répétées, comme on a dans la liturgie juive, hein, avec des phrases qui reviennent régulièrement. On a une espèce de polyphonie un peu épaisse que nous, musicologues, nous qualifions d'hétérophonie, c'est-à-dire quand plusieurs personnes chantent en même temps, elles veulent chanter la même ligne mélodique, mais elles sont souvent soit un peu décalées, soit pas sur la même hauteur, et ça finit par créer une épaisseur qui induit des sons harmoniques assez subtils, mais qui peuvent agir sur l'inconscient. Et puis aussi, comme vous l'avez entendu, parfois des accélérations, des répétitions et des accélérations qui sont susceptibles d'entraîner un petit peu les... Alors sans parler de transe, mais en tout cas d'entraîner les fidèles. Est-ce qu'on est uniquement au niveau finalement de mouvement mystique, ou est-ce qu'on n'a pas ce procédé qui est aussi utilisé quelque part dans ce pouvoir de cohésion dont vous avez parlé à la synagogue?
Oui, et c'était donc le grand psychiatre spécialiste de l'hypnose Hippolyte Bernheim qui parlait de ce rôle de la répétition dans l'induction des phénomènes hypnotiques, des phénomènes de transe. De la même façon que l'hypnotiseur répète un mot, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, jusqu'à induire...
Vous allez endormir nos auditeurs là sur ce qu'il est.
Voilà, exactement, jusqu'à induire précisément l'état de fatigue. C'est donc la notion d'idéodynamisme. Le dynamisme par l'injection mentale des idées. Et de la même façon, la musique agit aussi avec ses caractères répétitifs qu'on trouve dans certains chants rituels, dont l'objectif, c'est précisément d'entrer dans un état second de type mystique.
Très bien. Eh bien, écoutez, de toute façon, on va retrouver tout ça. Donc, on en a parlé tout à l'heure, notamment chez les Hassidim, ce courant mystique vraiment particulier. Et je vous propose donc de faire une nouvelle pause musicale. Puis après, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que le Hassidisme. On va écouter un nigoun. Alors, ça aussi, vous allez nous expliquer après hein, ce que c'est qu'un nigoun. Donc, il s'agit même plus exactement d'un nigoun de Donetsk, des Hassidim de Boyani, c'est-à-dire originaire d'Ukraine. Et c'était enregistré à Jérusalem. Un extrait donc d'une danse, c'est un nigoun plutôt dansé des Boyanim, donc des Hassidim de Boyani. On entend ici les frappements de mains, on sent le balancement du corps. C'est en plus un extrait seulement, ça dure comme ça des minutes et des minutes. Est-ce que vous pourriez alors nous dire un peu plus déjà qu'est-ce que c'est que le Hassidisme ? Qu'est-ce que c'est qu'un nigoun déjà peut-être avant de parler du Hassidisme ?
Oui. Les nigoun dans le Hassidisme, c'est essentiellement l'utilisation du son dans un sens sublimatoire. Le Hassidim pense que tout ce qui existe sur terre vit dans le profane et peut s'élever par l'action de l'homme vers le sacré. Que les herbes amères que l'homme ne peut pas utiliser dans la vie quotidienne, dans l'alimentation quotidienne, vont servir à fabriquer des médicaments. Et les animaux donc vont être utilisés dans les sacrifices et par là vont servir donc le projet du Créateur, le service divin. L'être humain est l'organisateur de cette transformation, de cette sublimation, de cette élévation de toutes les forces de la nature vers les niveaux sacrés, les niveaux supérieurs. De la même façon, le son peut être utilisé dans les formes les plus abjectes, les plus corrompues, les plus néfastes, les plus criminels. Mais le même son, quand il est transformé, transfiguré dans le chassidisme, peut être utilisé comme un moyen d'élévation de l'âme. C'est donc l'idée des transfigurations, par exemple les marches militaires, qui sont une expression de la violence des États et des armées, peuvent être utilisées. Le chassidisme a transformé de nombreuses marches militaires en simplement cantique, liturgique. Les chansons des tavernes expriment donc aussi le laisser-aller dans le public en proie à l'ivresse, en proie au désordre des esprits. Mais le chassidisme transforme ces chansons des tavernes en cantiques spirituels. Alors là, le nigoun n'est pas nécessairement, vous le savez bien, d'origine juive. Ce qui est important dans les nigoun, c'est la transformation, c'est la transmutation. C'est cette idée de sublimation du son. Mmh. qui est fondamental dans le chassidisme.
D'ailleurs, le nigun n'a pas généralement de paroles, ce sont des onomatopées.
Oui.
Et ce qui est plus important, justement, c'est ce qu'il y a derrière les paroles, enfin, ces semblants de paroles derrière ces onomatopées.
Oui, ce qui est important, c'est donc là, c'est le son qui guérit. Ce n'est pas la parole qui guérit ou le chant qui guérit, c'est le son qui va provoquer dans l'esprit de l'homme la lutte contre le désespoir, contre les dégoûts de la vie, contre le pessimisme et précisément le retour à la joie de vivre et d'agir.
Alors justement, le chassidisme est né vers le milieu du XVIIIe siècle en réaction à une certaine austérité des rabbins de l'époque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement l'historique un peu de la naissance
de ce mouvement ? Oui, c'est-à-dire le chassidisme apparaît au moment où les masses populaires sont plongées dans une certaine mélancolisation, pour utiliser l'expression du psychanalyste Serge Lesourd. La mélancolisation collective, la population juive est dans une sorte de dégoût, de pessimisme, d'inertie, sans trouver les raisons de vivre et d'agir dans le cadre du judaïsme. Et alors, le chassidisme introduit donc l'idée que cette mélancolie est coupable non seulement de la perte de la foi, mais de quelque chose d'autre. L'observance de la loi, l'observance de la Torah sans joie et sans bonheur. Or, dans le chassidisme, observer la loi, observer les 613 commandements de la loi sans amour et sans joie, comme une corvée, apparaît donc précisément comme une lacune fondamentale. Et la musique va nous faire comprendre que les commandements ne sont pas des corvées pénibles, accablantes, qui doivent être accomplies dans la souffrance et la tristesse, mais sont plutôt donc des moyens d'élévation de l'être humain. C'est la raison pour laquelle Elie Wiesel, dans son livre sur la célébration chassidique, appelle précisément cet ouvrage « Contre la mélancolie ». C'est le programme du chassidisme.
Et le chassidisme, c'est aussi un moyen de redonner la parole, et quand on dit la parole, c'est aussi le son, au peuple, en fait.
Oui,
vraiment.
La parole est aussi pour redonner... Et donc c'est toute sa valeur au corps, au mouvement du corps dans la prière, n'est-ce pas? Dans le chassidisme, on ne prie pas simplement avec les paroles, on ne prie pas simplement avec l'esprit, on prie avec le corps.
Et tout ça se fait dans un état second, et on va en parler, on va entendre une nouvelle pause musicale qui s'appelle justement le Nigun de Devekut. On verra ce que le terme signifie, vous nous le direz après, et ça vient donc des chassidim de Lubavitch qui sont aujourd'hui un des mouvements peut-être chassidiques les plus puissants dans le monde, et on verra que ça se rapproche assez de la musique des confréries soufis que nous avons entendu tout à l'heure, mais on va l'écouter dès à présent.
Yeah.
extrait donc d'un Nigoun de Devekut chanté par les Hassidim Lubavitch, extrait d'ailleurs d'un superbe coffret qui s'intitule The Hasidic Nigoun as Sung by the Hasidim, qui est publié par le Centre de musique juive de Jérusalem. Donc Frank Linowski, c'est quoi la Devekut en fait?
La Devekut, c'est l'union mystique de la créature et son créateur. C'est un projet qui existe dans tous les courants mystiques, dans la mystique chrétienne particulièrement, dans la mystique carmélitaine, dans la mystique musulmane, particulièrement chez les soufis, et dans la mystique juive, que ce soit dans la Kabbale ou dans le chassidisme. Mais ne fait pas l'unanimité du monde juif. En effet, vers la même époque, au XVIIIe siècle, le courant des Mitnagdim, les opposants qui représentent le judaïsme rabbinique classique, est profondément hostile à l'idée de Devekut. Il ne pense pas que l'être humain peut s'attacher à son créateur. Et c'est ce que nous voyons dans l'œuvre de Rabbi Chaim de Volozhin, un des disciples du Gaon de Vilna, qui explique que la Devekut, l'union, Devekut vient de Debek, coller, et l'homme s'attache, à quoi peut-il s'attacher? Eh bien, il peut s'attacher, dit Rav Chaim de Volozhin, à la Torah et aux mitzvot, à la loi et aux commandements. Mais entre l'homme et son créateur, il y a un gouffre infranchissable. Et aucun état mystique, aucune extase, aucune transe ne pourront faire disparaître ce gouffre, de façon telle que vers la même époque apparaît un courant chassidique qui va dire « oui, nous allons vers la Devekut et la Devekut s'obtient, l'union mystique s'obtient dans la simcha, dans la joie. La joie est précisément la possibilité pour la présence divine de séjourner dans le cœur des hommes. »
Donc, si je vous suis bien, il y a cette adhésion, cette joie, et pour en revenir à cette espèce de transe collective qu'on constate chez les Hassidim, il y a donc la danse, le mouvement du corps qui participe. On va écouter donc un extrait, le temps passe très vite en votre compagnie, donc il faut qu'on accélère, une danse donc Nigunim des Hassidim de Vichnitz, toujours en Ukraine. Extrait donc de cette danse Nigun des Hassidim de Vichnitz. On a envie de danser effectivement. Et puis il y a ces instruments qui accompagnent ici. On n'en a pas parlé, mais évidemment dans les cours des Hassidim, il y avait principalement le chant, mais il y avait aussi parfois ces instrumentistes qu'on appelle aujourd'hui klezmer qui jouaient avec et qui accompagnaient. Donc l'instrument n'est pas exclu de la pratique et du son qui guérit, qui permet de rentrer en transe chez les Hassidim. Un petit mot de conclusion sur ce sujet ô combien vaste et que nous n'avons fait qu'effleurer.
Oui. Parlons du Dibouk Haverim, l'association des compagnons. Les Hassidim ne chantent pas individuellement, ne dansent pas tout seuls. Ils sont associés et c'est le groupe qui recherchent ensemble un état second des fusions spirituelles, des ferveurs mystiques. Donc la Devekut, l'union mystique, s'est faite dans une sorte de transe collective, non dans une extase individuelle.
Mmh. Et donc, on va donc conclure cette émission avec un dernier morceau. Il s'agit d'une vision, là, pour le coup, plus artistique qu'authentique, comme on a entendu précédemment. Il n'en demeure pas moins que cette musique est bien agréable à entendre. Alors, si elle peut aussi vous apporter la bonne humeur et vaincre l'humeur noire que l'on entend sourdre d'un peu partout en ce moment, eh bien, tant mieux. Cela prouvera bien le pouvoir de guérison de la musique. Je vous propose donc d'entendre « Tristesse et joie », extrait d'un 45 tours, Nigune Rasedim. Tristesse et joie, tout un programme, donc extrait du disque Nigune Rasedim, et on l'a compris, c'est ces deux sentiments que la musique entend chasser, la guérison de la tristesse par la joie, c'est vraiment le credo, si vous me permettez, des Rasedim. Franklin Oski, chers auditrices, chers auditeurs, notre émission s'achève maintenant. Je vous remercie vraiment, Franklin Oski, du fond du cœur, pour votre présence ici, pour nous avoir fait partager votre envie de nous sortir de la mélancolie, la Mara Shrora, comme vous le disiez dans votre communication, et ce grâce à la musique. Et comme le disait Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, alors il ne faut surtout pas s'en priver. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.iemj.org, ainsi bien sûr que sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro Hervé Roten, David à la technique, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
The sugar. I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till